à nous prier. Notre Père, notre Dieu, nous tenons devant toi pour te dire merci pour ce jour qui nous a été donné à vivre. Sachant, Père éternel, oh Dieu, que beaucoup ont espéré voir ce jour, mais à toi l'âme a été rappelée. Non point, Père éternel, qu'ils aient été bons ou mauvais, ou que nous soyons bons ou mauvais, mais nous savons tout simplement, Père, que c'est toi qui as fixé pour chacun un temps. Et nous te prions maintenant, Père, alors qu'il nous a encore donné de vivre de ce côté ici du temps, que tu viennes à notre aide, Père, pour que notre marche soit stable en toi, Père éternel, oh Dieu. Pardonne nos offenses, instruis-nous, corrige-nous, éclaire-nous, Père éternel, oh Dieu. Nous nous attendons à toi, Père, que ton esprit, Père éternel, oh Dieu, soit déversé au milieu de nous, Père éternel, pour expérimenter encore, Père éternel, oh Dieu, ce que, oh Dieu, nos aînés, oh Dieu, les apôtres ont expérimenté, dont nous lisons les témoignages dans la Bible. Sois-nous favorables, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup plus de l'union avec Christ. Cette union avec Christ est indispensable. Sinon, nous perdons notre temps. Que Dieu puisse vraiment nous aider à saisir ces vérités et à marcher selon elles. On va lire dans Jean 17, 23. Jean 17, chapitre 17, verset 23. On a lu ça la fois passée. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as aimé. Que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir. Merci. La fois passée, lorsque nous sommes séparés, on avait dit que il y a deux verbes qu'on a relevés ici, c'est connaître et aimer. Et nous avons suivi qu'il y avait divers types d'amour. Et nous avons dit que l'amour, comme la croix, a deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. Si nous pouvons lire dans Matthieu 12, à partir du 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes sont sous l'amour, enfermés ou encapsulés dans l'amour, c'est-à-dire qu'ils dépendent de l'amour. Avant de parler de la relation entre l'homme et son prochain, il est important que nous nous attardions sur la relation entre Dieu et l'homme, parce que c'est la relation la plus importante. Et cela découle en fait l'autre relation, je voulais dire la dimension horizontale. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ va s'adresser au Père. Dans Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Ici, on voit de nouveau, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et chacun de nous désire cette vie éternelle. Et connaître, j'avais dit la fois passée que connaître, il y a le mot naître, c'est la clé. Il s'agit en fait de naissance. Celui qui n'est pas né ne peut pas connaître l'amour. Il faut naître homme pour connaître l'amour de l'homme. Et puisqu'il s'agit de naissance, nous allons rentrer au début de la création, à la naissance de la terre, à la création de la terre, dans Genèse 1, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'on lit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme et elle était vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ici, nous voyons, je me suis arrêté là parce qu'on pouvait continuer. Et si vous avez le temps à la maison, lisez tous les chapitres, parce qu'il y a de très bonnes choses là-dedans. Et ici, au verset 2, il est dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait-il au-dessus des eaux? Notez que l'Esprit n'était pas dans les eaux, mais il se mouvait au-dessus des eaux. Si on regarde bien de ce qu'on vient de lire, il y a trois entités qu'on peut relever. C'est quoi ces trois entités? Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a les eaux. Et il y a les ténèbres qui étaient au-dessus de l'abîme. Des ténèbres va sortir la lumière. Dieu va créer la lumière et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et remarquez, c'est une lumière assez étrange parce que normalement la lumière chasse les ténèbres. Et ici on voit que la lumière était mélangée avec les ténèbres. De quel type de lumière il s'agit pour qu'elle soit mélangée aux ténèbres? Parce qu'on sait que si on éteint tout et qu'on rallume, ben la lumière va chasser les ténèbres. Mais ici, Dieu dit que la lumière était mélangée aux ténèbres. C'est une lumière assez particulière. Que Dieu puisse nous éclairer. Et si vous avez le temps, essayez de sonder. On en parlera peut-être à une autre occasion. Donc, je disais, Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est cette lumière, c'est à partir de la création de cette lumière qu'on va commencer à compter les jours. Ce n'est pas à partir de la lumière du soleil qu'on a commencé à compter les jours. À partir de cette lumière ici. On va commencer à compter les jours. Et il est dit que la lumière a été appelée jour et les ténèbres nuit. Donc je disais que c'est une lumière assez particulière. On reviendra peut-être là-dessus à une autre occasion, si Dieu nous le permet. On peut aussi constater que la première chose qui vient, c'est la nuit, ensuite le jour. La nuit est la première chose qui est, ensuite le jour va arriver. Et ceci, il y a une raison pour cela. On y reviendra si Dieu le permet. Ok, au verset 6, il est dit, Dieu dit, c'est-à-dire Dieu va prononcer la parole et l'étendue va être créée. Dieu va séparer les eaux qui sont au-dessus, les eaux qui sont en dessous et il va créer le ciel. Remarquez, il n'est nulle part dit, en tout cas, je n'ai pas vu nulle part dit que Dieu a créé, lors de la création de la terre, que Dieu crée les eaux. Ce n'est pas explicitement dit. Il dit seulement qu'il y avait des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les écluses des cieux s'ouvrirent. Notez ici, Noé était à la fin de son sixième centenaire. Parce qu'il avait 600 ans lorsque le déluge va arriver. Donc, je disais ici, les écluses des cieux se sont ouvertes pour déverser de l'eau. Et il y a aussi les sources d'abîme qui firent jaillir de l'eau. Donc, je disais, Noé avait 600 ans lorsque le déluge est venu. Donc, il rentrait dans les septièmes centenaires. Donc, lorsque le déluge intervient, nous voyons qu'il y a 6 et 7. Et on a déjà vu ça, les 6 et les 7 ont une signification. Dieu va créer le sixième jour et le septième jour, il va se reposer. L'épouse est enlevée à la fin du sixième millénaire et entre dans le repos au septième. Donc, l'arche qui flotte sur les eaux est un type de l'enlèvement, un type. Après le déluge, parce que le déluge, lorsque l'eau est tombée, le déluge a flotté, pardon, l'arche a flotté au-dessus des eaux. Et après un certain temps, après que les eaux soient séchées, l'arche est redescendue sur terre. C'est exactement ce que l'épouse va avoir. Elle va être enlevée pour les noces et il va revenir sur la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Nous ne vivrons pas au ciel. Nous y irons pour les noces. Donc, je disais que l'arche est un type de l'enlèvement. Donc, dans Genèse 8, on peut aussi lire, Dieu s'est souvint, donc premier verset, Dieu s'est souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Donc en haut, il y a de l'eau. Et si on lit de très très près le chapitre 1, on va voir que c'est à partir des eaux que tout va être créé, à part la lumière. Si vous lisez bien le chapitre 1, vous verrez chaque fois, Dieu dit, il parle d'abord aux eaux, les eaux vont se séparer. Ensuite, il y a les eaux en haut, il y a les eaux d'en bas, et Dieu va parler aux eaux pour que les secs apparaissent. Les secs vont apparaître. Ensuite, il va y avoir création de poissons. Dieu va dire que les eaux produisent même la terre. Si vous allez dans Pierre, même la terre a été tirée de l'eau. Donc, il y a deux choses qu'on voit ici. Il y a deux choses qu'on voit ici, c'est l'eau, les eaux et l'Esprit de Dieu. Nous voyons comment Dieu a créé la terre au début. Il y a les eaux et l'Esprit. Il y a les eaux et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et les eaux. Ce sont les deux, l'Esprit de Dieu et les eaux, qui vont faire que tout va être créé. L'Esprit de Dieu, Dieu va parler. Parole. Et la parole est la semence. En parlant aux eaux, c'est comme si Dieu ensemençait les eaux. Et les eaux vont obéir pour se séparer ou pour produire des poissons. Et si vous remarquez bien, il y a une chose qui apparaît ici, c'est la naissance. Et c'est la naissance, naître d'eau et d'esprit. En fait, le type se trouve à la création. Lorsqu'on parle de naître d'eau et d'esprit, la création tout entière est créée à partir de ces deux éléments. Donc l'Esprit de Dieu et les eaux. Vous pouvez vraiment lire très calmement Genèse 1, et vous verrez que ça n'est ainsi. Donc, quand on parle de naître d'eau et d'esprit, en type, nous avons le type de ce que Dieu a créé. Et je répète, l'Esprit de Dieu, Dieu va parler, la parole est la semence, et c'est à partir de cette semence que tout va être créé, mais avec le concours des eaux. Et donc, les eaux donnent la forme. On reviendra là-dessus. Donc, je disais que tout se passe comme si l'Esprit de Dieu, par la parole, fécondait les eaux pour amener les choses à l'existence. Ce qui veut dire que sans eau, la vie ne peut pas s'est manifesté. Les eaux, en fait, constituent... Les eaux constituent, en fait, les conditions de vie. Et l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Donc, il faut que la vie s'unisse aux conditions de vie pour que la vie soit manifestée. Donc, on a besoin de l'eau et de l'Esprit de Dieu. C'est donc un couple inséparable. Nous verrons ça avec Nicodème, quand le Seigneur va lui dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et on a les types dans, lors de la création. Tout a été créé à partir des eaux et Dieu a dû parler pour que cela puisse arriver. Et c'est pourquoi les scientifiques cherchent de l'eau dans, sur d'autres planètes pour savoir si la vie a été possible autrefois ou peut être possible sur ces planètes. Ils ont déjà pollué la Terre avec leur révolution industrielle et maintenant, avec leur révolution digitale et quantique, ils veulent aller polluer les autres planètes. S'ils y trouvent de l'eau, hein, ils rêvent d'aller y habiter. Pure folie, bien que nous soyons émerveillés par tous les prouesses que toutes ces révolutions nous apportent. La réalité, c'est que nous nous enfermons nous-mêmes dans un monde mûr pour la destruction par le fait de nos actions parfois inconsidérées. Plus l'homme augmente sa science, plus il prépare sa propre destruction. Et c'est là la vérité. Et on le voit, ils sont en train maintenant d'accumuler les armes à gauche, à droite, les armes nucléaires. Un jour, ils s'en serviront. Ce n'est pas... Ils ne les gardent pas juste pour faire plaisir. Un jour, il y a quelqu'un qui s'élèvera et il appuiera sur les boutons. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va communiquer son énergie vitale aux eaux pour que celles-ci produisent ce que Dieu dit qu'elles sont censées produire. Et vous remarquerez, lorsqu'on lit dans chapitre 1, Dieu dit, revient tout le temps en rapport avec la création. Donc, l'Esprit de Dieu est l'énergie de vie, c'est la semence de vie, c'est la source. Et l'énergie, c'est aussi le feu. L'énergie, c'est aussi le feu. Et je disais tout à l'heure que les eaux sont la ressource, la matrice ou les conditions de vie à partir desquelles tout va être créé. Ce qui veut dire que pour que la vie soit manifestée autant naturellement que spirituellement, il faut l'esprit et l'eau. Ceci est capital. Ceci, la création, c'est l'ombre. Ce qui se fait naturellement, c'est l'ombre de ce qui se fait spirituellement. Et on sait que l'eau représente aussi la parole. Et c'est ce qu'on va voir avec Nicodème. Jésus va être en conversation avec Nicodème. Jean 3, à partir du verset 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Dans ce texte, nous assistons à une conversation entre deux docteurs. Le Seigneur Jésus-Christ, docteur venu de Dieu, et Nicodème, docteur d'Israël. Le premier docteur est céleste et il va instruire le second qui, lui, est terrestre. Il va lui instruire des choses spirituelles. C'est là toute la différence entre un homme venu de Dieu et un homme de Dieu, comme aujourd'hui on a coutume de l'appeler. Malheureusement, il y a plus des hommes de Dieu que des hommes venus de Dieu. Il y a beaucoup d'apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs, mais il y en a peu seulement qui sont venus de Dieu, c'est-à-dire mandatés par Dieu. Sinon, pourquoi y a-t-il tant de divisions dans les églises? Les églises sont devenues comme des partis politiques où c'est la course au pouvoir et à la popularité, ce qui devient le leitmotiv de plusieurs conducteurs. Mais Dieu se réserve encore des serviteurs qui ne se tiennent que sur la parole, pas de compromis ni de compromissions quant à la parole. Il est donc difficile aux hommes terrestres de comprendre les choses spirituelles, car on est dans deux dimensions différentes. Même si les terrestres ou les choses terrestres sont le type de choses spirituelles, les choses terrestres nous aident dans beaucoup de cas à comprendre les choses spirituelles. Nous voyons de nouveau ici que le Seigneur se réfère à l'eau et à l'esprit pour parler de la naissance spirituelle. Mais Nicodème n'a pas saisi le langage de Jésus car il ne regardait les choses que du point de vue terrestre. Il va se retrouver devant une équation insoluble. Mais comment faire pour rentrer dans le ventre de sa mère et naître? C'était ça la difficulté pour Nicodème. Jésus lui parle de la nouvelle création. Nicodème se réfère à l'ancienne création et de son impossibilité à naître une seconde fois, car rentrer dans le sein maternel pour y naître à nouveau est impossible. Étant docteur de la loi, il savait probablement comment se passe la naissance terrestre. La naissance d'en bas, à partir du sein maternel, et que le processus de la naissance exige l'eau et l'esprit. L'esprit est la semence de vie ou le souffle de vie. Dans Genèse, il est parlé de ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais Nicodème n'a pas compris le langage de Jésus, car pour naître d'en haut, il faut aussi naître d'eau et d'esprit comme la naissance naturelle. On reviendra sur ça pour voir de quoi il s'agissait exactement. Nicodème pouvait expliquer les processus naturels. Et si vous remarquez, le processus naturel, c'est exactement ce que Dieu, c'est le type, le type de ce que Dieu a fait au commencement. Je ne veux peut-être pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Donc, lorsqu'on regarde la naissance naturelle, on sait que le sein de la femme est un lieu de ténèbres. Et au commencement, il y avait les ténèbres. L'homme, couvrant de son ombre sa femme, va féconder sa femme. Et cette semence va produire l'embryon. Et l'embryon va grandir dans de l'eau. Ce qu'on voit ici, les eaux, j'essaie de trouver de bons termes pour essayer de faire comprendre les choses. Donc, tu disais, l'enfant dans le sein maternel va baigner dans liquide amniotique. C'est comme s'il flottait dans de l'eau. Comme s'il flottait il nageait dans l'eau. Donc, le processus naturel est similaire à ce qui se passe au commencement. Et c'est pourquoi naître d'eau et d'esprit est quelque chose aussi lié à notre naissance naturelle. Parce qu'on est d'eau et d'esprit. Je ne vais pas, comme je disais, trop rentrer dans les détails. Mais on va dire ceci, c'est que à la naissance, l'enfant va fendre les os, perte des os, et c'est ce qu'on retrouve aussi au commencement. Dieu va séparer les os dessous des os qui sont au-dessus. Et une chose, c'est que l'enfant dans le ventre de la maman, il est comme un poisson. On dit que l'eau a produit les eaux. Au commencement, on produit des poissons. Et l'enfant est comme, ce sont des types, hein, l'enfant est comme un poisson dans le sein maternel. Ensuite, lorsqu'il va naître, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va marcher à quatre pattes, hein, la plupart. C'est un peu le développement qu'on a avec les animaux. L'animal a quatre pattes. Et ce n'est qu'en fin de processus que l'homme va marcher sur deux pieds. Et si vous avez le temps à la maison, examinez la chose de plus près et vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé au commencement. C'est pourquoi naître d'eau et d'esprit est est lié à la naissance naturelle. On reviendra sur la naissance spirituelle. Mais je suis en train de montrer que quand on dit naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas vraiment quelque chose de mystérieux. Si on examine bien la chose, on va voir que c'est exactement comme ça que l'homme aussi naît. Parce que Dieu utilise toujours la même façon de faire les choses. Comme je dis, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, que Dieu puisse vous éclairer. Et si vous voulez, on peut toujours en parler. Si vous avez des questions, on peut toujours en parler après. Donc, je disais que ce qui se passe au début, ce qui se passe au niveau de l'homme et de la femme, c'est ce qui s'est passé lors de la création de la terre. Et si vous regardez bien, Ève, dans Genèse 4:1, va dire: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle dit, j'ai formé. Formé. Former, ça veut dire donner un corps. Et c'est la femme qui donne le corps. Parce que la vie vient de l'homme. On voit ici les trois verbes, connaître, concevoir et former. Ce sont des choses qui nous éclaire un peu sur les réalités spirituelles. Bien. Donc, ici, former, c'est donner un corps. Et ceci, cette loi-là, elle est, loi, est une loi divine parce qu'elle elle s'accomplit pour beaucoup de choses. Je vais donner un exemple. Prenons le cas, quelqu'un qui a une idée, l'inspiration, une lumière qui vient de quelque part et qui vient féconder son esprit pour produire la pensée que tu peux exprimer. Et lorsque tu vas exprimer ta pensée, ton esprit est comme dans une condition féminine. Je vais rendre cela encore plus clair. Prenons le cas de la chaise. Quand tu regardes la chaise a un concepteur. Le concepteur a eu une idée. Il a eu une inspiration. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tailler les bois. Il va donner une forme au bois. C'est comme pour la femme, donner un corps. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons voir la chaise qui est là. Mais la chaise, en fait, c'est une union entre la pensée du concepteur et les bois qu'il a taillés. C'est ce qu'on a. On arrive au bout ici, on a la chaise. Donc, c'est un principe divin qu'il y a toujours... L'immatériel et le matériel s'associent pour produire quelque chose. Et ça arrive pour quasiment dans tous les domaines. Il y a une idée, et puis même les voitures, c'est parti des idées. Et des idées mises ensemble, on va travailler le métal, on va travailler différents matériaux, et on va donner la forme. Et la voiture, c'est la manifestation de l'idée du concepteur. Tout comme la chaise, c'est la manifestation de l'idée de celui qui a eu l'idée de fabriquer une chaise. C'est pourquoi d'ailleurs il y a différents types de chaises. Donc je disais qu'il y a toujours l'union de l'immatériel et du matériel. Donc, très très important, l'eau... Tout a été formé à partir de l'eau. L'Esprit de Dieu prononça la parole, ou Dieu prononça la parole. Et c'est comme ça qu'il est. Le Seigneur parle de naître d'eau et d'esprit. Parce que dans la naissance naturelle, il y a l'eau et l'esprit. Et on verra dans le côté spirituel, il y a aussi l'eau et l'esprit. Et j'avais dit tout à l'heure que la parole, l'eau est assimilée à la parole. Bien, donc, on continue. Je disais tout à l'heure que bien des choses, Dieu donne les types. Lors de la naissance, l'homme va grandir et il va aussi passer par diverses étapes, de la naissance à la mort. La naissance à la mort, c'est la période de vie ici-bas. Et il est dit qu'au septième jour, Dieu se reposa de son œuvre. Je dis bien au septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Et David nous dit quelque chose d'assez étrange. Il dit dans Psaume 90, 9-12, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère? et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu puisse nous aider à vraiment bien compter nos jours. Et pour bien compter nos jours, il y a David qui dit que la durée de vie de l'homme est de 70 ans. 70 ans. Dieu a caché beaucoup de choses dans les chiffres. Il nous dit que la vie de l'homme est de 70 ans. Et quand on regarde bien, 70 est égal à 7 fois 10. Il n'y a pas de calcul plus grand. Et 7, ça, c'est comme la semaine. Si on divise le temps de l'homme sur la terre, d'après David, pour les plus forts, ils vont au-delà de 70. Mais tenons-nous-en à 70. Donc, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Au-delà de 70, c'est un bonus. D'après qui? David, il dit, bon, pour les plus robustes, c'est vraiment un bonus. Et si vous remarquez, David a vécu 70 ans. Son fils Salomon a vécu 70 ans. Vous pouvez encore voir, Joseph va vivre 70 ans après que son père et ses frères se soient installés en Égypte. Et comme je disais, les chiffres ont une signification, ils cachent des réalités parfois qui nous dépassent. Donc, si on prend chaque 10 ans comme une semaine, la vie de l'homme sur la terre est de... Non, plutôt, si on prend 10 ans plutôt comme un jour, la vie de l'homme sur la terre est de 7 jours. C'est une semaine. Et ceci est un type. Et David était prophète. Hein. Quand vous allez dans Genèse, Adam a vécu 930 ans. Et 930 ans, il lui restait 70 ans pour atteindre 1000, pour aller dans les milléniums, si vous voulez. Et David, en tant que prophète, voit, c'est comme s'il achevait les jours d'Adam, 70 ans. Donc, un jour, 10 ans, 70 ans, 7 jours, une semaine que Dieu donne à l'homme. Une semaine. Vous pouvez encore penser à la semaine qui reste au niveau d'Israël. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, on voit que Dieu a mis des types dans toute la Bible. Et si on prend du temps à creuser un peu, on va voir que Dieu explique les Écritures par les Écritures. Bien. Donc, si on continue, je disais que par les lois que Dieu a établies, le corps de la femme constitue en fait un microcosme où Dieu reproduit ce qu'il a fait au commencement de la création. Et la Bible parle du... ou plutôt, le corps de la femme est comparé aussi au tabernacle de la vie. Et c'est pourquoi le corps de la femme est sacré. parce que c'est le tabernacle de la vie. On ne va pas rentrer là-dedans, peut-être qu'on en parlera une fois avec les jeunes gens. Et ce qui fait que quand on connaît la valeur d'une chose, quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, ou quand on n'a pas compris le pourquoi d'une chose, on peut facilement en abuser ou mal l'utiliser, ou ne pas l'utiliser à son potentiel maximal. C'est pourquoi il est important que l'homme respecte la femme et que la femme respecte l'homme, afin que Dieu soit honoré en tout. Et pour bien le faire, donc respecter et la femme ou l'homme et en user selon Dieu, il est important de se tourner vers le Créateur ou en tout cas vers son manuel d'utilisation que le Créateur a mis à la disposition d'un chacun. Et c'est comme ça qu'on comprendra que pourquoi Dieu nous a donné ce corps. Le corps est un tabernacle. Nous avons vu ça, je crois, le tabernacle, le temple du Saint-Esprit. C'est très, très important. C'est pourquoi on ne peut pas faire rentrer dans son corps tout ce qu'on veut. Non. Que Dieu puisse nous aider. Bien, donc, tout se passe comme Dieu l'a fait au commencement dans le processus de naissance. Pour clore cela, Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. La manière dont il a fait les choses la première fois, c'est comme ça qu'il les fera la deuxième fois, la troisième fois, ainsi de suite. Il ne change pas. Puisqu'on retrouve les mêmes lois dans toute sa création, toutes ses œuvres aussi sont marquées de son empreinte et on peut facilement les reconnaître. C'est ce que l'apôtre dit dans Romains 1, à partir du 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est comme pour ceux qui aiment les œuvres d'art, chaque artiste a son empreinte. Quand on prend par exemple Picasso, mais ses œuvres sont facilement reconnaissables par les experts, car ils ont une caractéristique qui soit propre à Picasso. Et un connaisseur ne peut pas s'y tromper. Aujourd'hui même, il y a des tests, il y a des faux qui peuvent circuler, mais on finit quand même par déceler que ce sont des faux. Bien, revenons à Nicodème. Mais comment saisir à partir des vérités terrestres, des vérités spirituelles? Il avait besoin que le Seigneur lui ouvre l'intelligence. Il avait besoin de la révélation. Cela n'est pas le fait que je sois docteur, prophète, bishop, pasteur, apôtre, que je prêche ou que je chante ou que je suis diacre ou que je suis celui sur qui l'Assemblée peut compter. Rien de tout cela. Cela dépend de Dieu et de Dieu seul, et à qui le Fils veut les révéler. Et alors, quelle est la raison pour l'homme de s'enorgueillir? Il n'a aucun mérite, car c'est seulement la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de sa grâce et de sa révélation pour saisir les vérités spirituelles. De la conversation du Seigneur avec Nicodème, nous comprenons que l'Esprit de Dieu ne vient que là où il y a l'eau et qu'ils travaillent ensemble pour manifester la vie, c'est-à-dire naître dans le royaume de Dieu. C'est comme la colombe ne descend que sur l'agneau. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Nous y reviendrons probablement un autre jour. Pour terminer, on va lire Éphésiens 1, à partir de 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est le corps du Christ. Je disais tout à l'heure que c'est la femme qui forme. Ève l'a dit, j'ai formé un homme. Adam n'a pas participé à ça. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et c'est vraiment notre prière ce soir, que Dieu puisse nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il puisse illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est vraiment ma prière aussi pour nous tous, que Dieu puisse nous aider, illumine les yeux de nos cœurs. Parce qu'il est dit, mon peuple se meurt faute de connaissances ou de révélations. Et nous avons besoin de l'esprit de révélation pour marcher de manière digne devant lui et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Prions. Bien-aimé Père, bénissons et louons ton nom, Père, sachant, ô Dieu de miséricorde, que c'est toi seul qui peux nous révéler tes voies. C'est ta grâce que nous demandons pour chacun de nos pères, car nous voulons avancer sur cette route de la vie, marchant, ô Dieu, en pleine conscience que nous marchons avec Dieu. Bien-aimé, à qui d'autre veux-tu que nous nous tournions, Père? Tu as inscrit tes lois dans toute ta création et nous pouvons voir cela, Père éternel, ô Dieu. Et comme je parlais encore avec des bien-aimés, les lois de Dieu, lorsqu'elles sont appliquées, peu importe qui on est, lorsqu'on applique les lois de Dieu, ça produit les choses qu'elles sont censées produire. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous te prions, ô Dieu, de nous aider à marcher dans tes lois, afin que nous puissions expérimenter réellement, Père éternel, ô Dieu, les choses que tu as mises en réserve pour nous. Aide-nous, Père éternel, ô Dieu, dans nos méditations. Aide-nous, Père éternel, à ruminer ces choses, à entrer encore plus en profondeur, Père, pour en saisir, ô Dieu, la profondeur. Et surtout, Père éternel, ô Dieu, pour une marche toujours plus intime avec toi. Merci pour cette soirée qui nous a été donnée. Merci, Père, pour la grâce manifestée, ô Dieu, en ces jours pour chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Nous prions, Père, que tu puisses raccompagner chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Nous préservons de tout incident fâché, Père éternel, ô Dieu. Et s'il y a encore un lendemain pour nous, ô Dieu, nous te bénirons. Car, ô Dieu, nous savons que c'est toi, ô Dieu, qui tiens nos vies entre tes mains, Père éternel, ô Dieu. Mets la crainte de ton Saint-Nom dans nos vies, Père éternel, ô Dieu, et conduis-nous en toutes choses pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.